Déclic, actualité de Milan Kundera avec Lucky Sproghidis et Guy Scarpetta. Pendant mes études de lettres, dans les lointaines années 70 du XXe siècle, l'université était en proie, comme l'écrit Antoine Compagnon, au démon de la théorie. On ne jurait que par le signifiant, le texte, la structure. On dénonçait l'illusion référentielle, on refermait l'œuvre sur elle-même, on s'enivrait du passage de l'écriture d'une aventure à l'aventure de l'écriture. La modernité se définissait dans tous les domaines, dans tous les arts, par la rupture avec la représentation. Et voici, soudain, Kundera, qui débarque de sa petite patrie et qui nous raconte sans ciller une histoire toute différente. Il se présente comme un praticien et un amoureux de l'art moderne et nous dit que la modernité, ce n'est pas la rupture, c'est avancer par de nouvelles découvertes sur la route héritée. Il nous dit aussi que le roman est un travail d'exploration de l'existence. Avec ces mots, Kundera a changé ma vie. Depuis que je le lis, je regarde le monde autrement. Je ne sais pas s'il en va de même pour mes deux invités, l'écrivain Guy Scarpetta et le directeur de la revue L'Atelier du Roman, Lucky Sproghidis, mais à les lire attentivement, je crois deviner qu'ils ont aussi une dette envers Milan Kundera. Je voudrais donc leur demander, pour commencer, de nous dire ce qu'ils doivent à la découverte de son œuvre. Guy Scarpetta.
Peut-être que je serai un peu moins sévère sur les années 70, que j'ai vécu, disons, dans une mouvance et dans une perspective qui était celle de l'avant-garde, mais ça m'a au moins permis de découvrir certains auteurs qui étaient complètement négligés par le savoir académique à l'époque, comme Georges Bataille ou Antonin Artaud, ou Joyce même. Et Alain, vous devez vous souvenir aussi bien que moi que à l'époque, il suffisait d'avoir une conversation avec Roland Barthes pour percevoir qu'on était très très loin de la glaciation qu'on a voulu définir à propos de cette époque de manière caricaturale. Bon, il n'en reste pas moins que je dirais que Kundera est arrivé pour moi au bon moment. D'abord pour une raison historique, c'est-à-dire que on en était arrivé à un stade où ça n'était plus seulement telle ou telle position politique qu'il s'agissait de combattre, mais où c'était l'histoire elle-même qui devenait problématique. Et là, Kundera a ouvert quelque chose de totalement, pour moi, libérateur. J'étais en face d'un écrivain qui n'énonçait pas des thèses sur l'histoire, mais portait un regard de romancier, un regard spécifique qui permettait d'échapper à la religion de l'histoire. Voilà. Et puis ensuite, bon, il est évident pour moi que cette expérience de l'avant-garde qui avait dominé les années 70, elle était arrivée à un point d'épuisement. Elle avait épuisé sa fonction. Quand la peinture en arrive au monochrome blanc, quand la musique en arrive aux plages de silence, et quand la littérature se réduit à quelques mots dispersés sur une page blanche, quand il y en a, il est évident qu'on peut pas aller plus loin dans la radicalité. Et Kundera, pour moi, c'est quelqu'un qui a remis les pendules à l'heure, d'une certaine façon. C'est-à-dire permis d'insérer l'expérience littéraire et romanesque à la fois dans une autre histoire et dans une autre généalogie et d'opérer un retour de notions qu'on avait déclarées périmées auparavant comme la représentation, le personnage, l'intrigue, etc. mais un retour qui n'était pas une simple réplique. C'était plutôt une manière de reprendre, de revivifier, de réactiver des notions qu'on avait un peu trop vite condamnées, et ça ouvrait sur une fantastique liberté d'écriture qui, je crois, a frappé tous ceux qui ont lu Kundera à ce moment-là, c'est-à-dire que ça ouvrait des voies, ça n'en fermait pas. La logique des avant-gardes, voilà, fermait des voies. Quand l'art du roman de Kundera ouvrait des voies, c'est très différent.
Oui, mais justement, enfin, je pense que Kundera a délivré la modernité de sa captation par l'avant-garde, parce qu'il s'est défini à la fois comme moderne et comme héritier. Le mot héritage tient une grande place dans son œuvre. À la fin du premier chapitre de l'art du roman, Kundera dit, mais quand on me demande quels sont mes attachements, eh ben je réponds, je ne suis attaché à rien sinon à l'héritage décrié, ouais, de Cervantes. Et justement, je vous interroge. Ah, vous me parlez de Barthes, mais l'évolution de Barthes est très intéressante. Ça n'a jamais été un terroriste intellectuel. Reste que dans son dernier séminaire sur le roman, il rêve d'écrire une œuvre filiale, ce qui est une sorte de rupture avec lui-même. Et je vous ai interrogé Guy Scarpetta précisément parce que pilier de tel quel à l'époque, vous étiez un membre actif de cette avant-garde. Alors, est-ce que la lecture de Kundera a constitué pour vous une sorte de bouleversement intérieur? A-t-elle induit une conversion? Ou bien avez-vous pensé qu'une synthèse était possible entre la littérature telle que vous la viviez et la définissiez avant de rencontrer son œuvre, et l'idée qu'il se faisait lui-même de l'histoire de la littérature, Guy Scarpetta. Et ensuite, bien sûr, j'interroge Lakis Progidis.
C'est un peu complexe, parce que il y a, bon, d'une part, faudrait pas faire croire quand même que dans cette époque des avant-gardes, on était inculte et on pratiquait la table rase. Bon, on lisait Dante, on lisait Mallarmé, hein, faut pas non plus caricaturer la chose. Mais je dirais que Kundera, pour moi, oui, ça a été une révélation, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est que ça permettait justement de sortir du face-à-face figé entre l'avant-garde et l'académisme. C'est-à-dire que le roman, pour lui, était d'une part le lieu d'une invention formelle nécessaire, et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Pour lui, un artiste ou un romancier, c'est celui qui invente des formes, mais en même temps, et par là même, un artiste ou un romancier, celui qui a une fonction de découverte du monde, de l'expérience humaine, voilà, qui est voué à explorer tous les domaines de l'expérience humaine qui échappent aux autres systèmes de représentation ou d'interprétation. Alors, quant à l'héritage, je dirais que tout, évidemment, dépend de ce qu'on en fait de cet héritage, parce que ce qui est important, c'est que Kundera considère que le roman, par exemple, n'est pas un genre littéraire, parmi d'autres, mais un art à part entière. Donc ça veut dire qu'il obéit à son histoire, qu'il ne se confond pas avec l'histoire des autres arts, mais en même temps, qu'il ouvre sur un monde, je dirais, transhistorique, c'est-à-dire où le présent et le passé ne cessent de dialoguer. Un monde où Gombrowicz peut dialoguer, voilà, avec Diderot et avec Stern. Hein, et avec Rabelais.
Et
un
avec
monde
Rabelais.
Où Joyce,
absolument,
aussi bien que Kafka, et Dieu sait s'ils sont différents, réactive Flaubert. Où Rushdie ressuscite Rabelais. Où Fuentes et Goiti Solo ravivent la leçon de Cervantes. C'est-à-dire que ce qu'il ouvre, c'est pas une conception notariale et respectueuse de l'héritage. c'est la possibilité, comme l'a fait Picasso dans la peinture, ou comme l'a fait Stravinsky dans la musique, ceux qui sont deux de ses grandes références, la possibilité de revisiter le passé, de s'appuyer sur lui, de le relancer, de concevoir que l'histoire d'un art, et notamment l'histoire du roman, c'est aussi l'histoire des possibilités qui ont été ouvertes et dont toutes n'ont pas été explorées. Donc c'est quelque chose qui a été pour moi, oui, je le dirais de nouveau, parfaitement libérateur.
Très bien. Vous parliez du face-à-face entre la modernité et l'académisme. Il y a pour Kundera, il y avait une sorte de modernisme académique qu'il appelle le modernisme titularisé. Je lis un passage de l'art du roman. Selon le modernisme titularisé, c'est par une frontière infranchissable que le roman moderne est séparé du roman traditionnel. Ce roman traditionnel étant le panier où on a ramassé pêle-mêle toutes les phases de 4 siècles de romans, dans l'optique d'Hermann Bror, puisqu'il s'agit d'un article sur Bror, le roman moderne continue la même quête à laquelle ont participé tous les grands romanciers depuis Cervantes. Mais maintenant, Lakis Progidis, vous qui êtes fondateur de l'atelier du roman, donc je vous pose la même question qu'à Guy Scarpetta, qu'a représenté pour vous la découverte de l'œuvre de Kundera.
Évidemment, il y a de ma part une grande dette, pas seulement de celui qui a fondé cette revue, mais la dette d'un écrivain. J'ai publié des essais sur justement l'ontologie du roman depuis 1989, et Kundera a joué un grand rôle dans ma transformation depuis mon premier métier d'ingénieur de travaux publics en écrivain. J'ai vécu cette rencontre avec Kundera dans un autre contexte que le contexte que vous, Alain Finkielkraut et Guy, vous avez vécu dans les années 60, 70. Moi, j'ai découvert Kundera en prison, j'avais 25 ans. J'ai purgé une peine de 6 ans pour des activités contre la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 67. Et c'était en 72, voilà, j'avais 25 ans, que j'ai lu La plaisanterie. Et pour moi, c'était une révélation. C'était ma première nuit blanche. Et mon enthousiasme portait sur des questions qui ne sont pas d'actualité aujourd'hui, peut-être, mais c'était ce qui m'a impressionné. C'était un personnage, Lucia, qui volait des fleurs pour les offrir à son amant, ou peut-être, parce que j'avais une sensibilité devant l'idolâtrie du folklore dans mon pays d'origine, j'ai été frappé par les commentaires de Kundera sur la musique folklorique de son pays. Donc voilà, c'était ce qui a retenu mon attention à l'époque. Mais ma transformation, ma vie a changé par la lecture d'un autre roman, c'était La pornographie de Gombrowicz. Mais c'était le contexte centre-européen, vous voyez, c'était pas loin. Mais c'était lui, c'était Gombrowicz qui m'a poussé pour changer de pays, de langue et de métier. Et c'est justement cette rencontre de Gombrowicz et de Kundera qui m'a fait participer au séminaire, à son séminaire. J'ai découvert en 81, dans un livret d'étudiants de l'école de hautes études en sciences sociales, que Kundera donnait un séminaire sur les grands romanciers européens, parmi lesquels figurait le nom justement de Gombrowicz. Donc vous imaginez, je me suis précipité à ce séminaire que j'ai suivi pendant 14 ans jusqu'à la fin, et c'était mon école d'éducation esthétique. Je pense qu'il n'y avait pas un autre séminaire dans le monde entier qui était justement, qu'on pouvait le qualifier comme un séminaire d'éducation esthétique. Voilà, c'était mon école, et évidemment l'atelier du roman de la revue qui consacre justement son 100e numéro à Milan Kundera, avec comme titre le printemps du roman. Vous comprenez tout de suite pourquoi cette allusion au printemps, parce que c'était, je pense que cette effervescence pragoise et tchécoslovaque des années 60 qui a culminé avec le printemps de Prague, c'est de tout ça ce qui restera, je pense, dans l'histoire de l'art, ça sera Le printemps du roman, réalisé par Milan Kundera.
Et... Oui, Le printemps, donc. Oui, et L'atelier du roman est un titre très kundérien, parce que comme le disait tout à l'heure Guy Scarpetta, Kundera ne fait pas simplement du roman un genre parmi d'autres, mais un art singulier. Et il rend à ce mot qui était un peu démonétisé, qui ne, tout d'un coup toute sa force. Et c'est la voie que vous suivez à travers l'art du roman, Lakis Progidis. Mais justement,
plus que ça, c'est-à-dire mais parce que le mot roman, c'est un mot français par excellence. Ça remonte au XIIe siècle, ça fait partie quand même de l'effort du peuple français pour former sa langue. Et quand on dit roman, on dit civilisation française. Je ne sais pas si les esprits ou les écrivains aujourd'hui sont susceptibles à comprendre ce qu'ils vont perdre en choisissant fiction, autofiction, écriture, etc., etc. C'est-à-dire... Leur langue ne résonne pas avec le fond de la civilisation française. Et c'est Kundera qui a réhabilité le mot, qui a dit n'abandonnez pas ce mot, c'est votre trésor sémantique, c'est votre identité historique. Donc c'est très important. C'est-à-dire plus loin que le roman est un art, c'est une civilisation.
Alors c'est ce que vous dites entre en écho avec l'article que Guy Scarpetta justement a publié dans ce 100e numéro de l'art du roman, je cite, plutôt que de se demander ce que la France a apporté à Kundera, il serait certainement bien plus intelligent de s'intéresser plutôt à ce que Kundera a apporté à la culture française et qui est immense. Ben il lui a peut-être apporté aussi il lui a rendu la mémoire justement en redonnant toute sa force à ce mot roman qu'on abandonne aujourd'hui pour celui de fiction ou d'autofiction. Mais Kundera définit le roman comme l'art ironique dans un entretien avec un journaliste québécois. Un ancien entretien publié encore dans ce numéro de l'Atelier du roman, il dit la perspective de l'ironie, c'est le roman lui-même. Alors je voudrais demander qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire que le roman, ce soit l'art ironique par excellence ? Et cela définit-il complètement l'œuvre romanesque de Kundera, Guy Scarpetta ?
Bah, écoutez, l'ironie, c'est spécifiquement romanesque. Je ne vois que très peu d'autres discours qui placent l'ironie au centre de leur formulation. L'ironie, bon, c'est au départ une forme rhétorique qui consiste à dire quelque chose pour sous-entendre le contraire. Bon, mais par exemple, si je dis l'extraordinaire aisance dans le maniement du langage de Muriel Pénicaud, eh bien, c'est de l'ironie, mais il y a peut-être des auditeurs de France Culture qui sauront pas que c'est de l'ironie, ou qui comprendront pas que c'est de l'ironie. Donc l'ironie, ce qui est terrible, c'est que il n'y a pas de signe typographique de l'ironie. Mais de manière plus fondamentale, je crois que l'ironie, c'est ce qui empêche le roman de devenir simplement l'exposé d'une thèse. Voilà. Je crois que la mise en valeur de l'ironie qu'on trouve chez Rabelais, qu'on trouve chez Stern, chez Diderot, chez Gombrowicz, enfin, et jusqu'à Kundera, Hérote aujourd'hui, c'est ce qui empêche le roman de se figer en un message univoque et une thèse. Bon, si j'ai deux secondes, je voudrais prendre deux exemples. Bon.
Allez-y.
Le livre du rire et de l'oubli commence par une séquence qui évoque une image célèbre en Tchécoslovaquie, celle où Gottwald, le dirigeant communiste, en 1948, harangue le peuple depuis un balcon d'un palais baroque de Prague. Bon. Et à côté de lui était présent un autre dirigeant communiste qui s'appelle Clémentis. Or, il faisait très froid, Clémentis, dans un geste de sollicitude, a mis sa toque de fourrure sur la tête de Gottwald, Et il se trouve que quelques années après, Clémentis avait été victime d'une purge, il a été exclu, il a été exécuté, il a été pendu. Et sur toutes les photos, son image a disparu. C'est-à-dire, il n'est plus resté de lui que sa toque de fourrure sur la tête de Gottwald. Bon. C'est emblématique. Bon, on sait que les régimes communistes ont tous fonctionné comme ça, à l'effacement de ce qui n'était plus dans la ligne, l'effacement de Trotsky des images de la Révolution d'octobre, etc. Et un personnage du roman de Milan, Mirek, en 71, se dit, en réfléchissant à ça, la lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli. Eh bien, il y a des tas de gens qui ont fait de cela une thèse, c'est-à-dire qui ont fait de ce propos d'un personnage la pensée de Kundera et qui l'ont pratiquement transformé en slogan. Or, si on lit quelques lignes plus loin, on se rend compte que Mirek, lui aussi, veut réécrire son passé. C'est-à-dire qu'il veut, dans sa biographie, dans sa vie intime, en éliminer les épisodes, y compris les épisodes érotiques, qui ne sont pas à son avantage. D'où sa tentative de récupérer des lettres compromettantes avec une femme qui s'appelle Zdena, qui veut effacer de sa vie. Et c'est là que le roman devient ironique et mystérieux. Il s'agit plus simplement d'opposer la mémoire et l'oubli. Puisque le révisionnisme historique, on se rend compte à ce moment-là qu'il s'alimente d'un révisionnisme subjectif, intime, auquel nous pouvons tous être soumis. Kundera écrit « Mirek réécrit l'histoire exactement comme le Parti communiste bon. ». Et c'est ça le territoire du romancier. C'est d'arriver à cette zone très mystérieuse où on se rend compte qu'un phénomène historique collectif peut être alimenté par certaines propensions subjectives dont personne n'est à l'abri. Voilà. Alors je crois que c'est un exemple, un autre exemple d'ironie. J'essaierai d'être bref. Dans le livre du rire et de l'oubli, toujours, il est question d'une famille qui est une sorte de caricature de la famille progressiste. Bon. Et cette famille, il y a une jeune fille qui est d'une certaine manière, et pour répondre à l'Akis Progidis, qui est d'une certaine manière un avatar de la lycéenne moderne qu'on trouve dans le roman de Gombrowicz qui s'appelle Ferdi Durk. Bon. Et cette jeune fille croit défier le vieux monde, elle est confrontée à des adultes, elle croit défier le vieux monde en proclamant que les femmes ne veulent plus être des objets sexuels, alors qu'elle n'a évidemment pas la moindre expérience personnelle à ce sujet. Mais elle épouse un stéréotype. Et il y a là un homme, Yann, qui est un homme vieillissant, un peu sceptique, qui réplique en lui suggérant combien il est facile de cesser d'être un objet sexuel. Et là, on est dans l'ironie, parce que dans le grand débat entre la réaction et le progrès, une telle réplique, tout bonnement, n'a pas sa place. Si Yann avait dit « Bravo, tu es dans le coup, il serait dans le camp du progrès », s'il lui avait dit « Mais non, les femmes doivent rester des objets sexuels », il serait dans le camp de la réaction, mais quand il dit « Ah, ma petite, si tu savais comme il est facile de cesser d'être un objet sexuel », là, c'est une formule qui perturbe, qui trouble, qui désoriente, qui n'implique aucune thèse et qui n'est là que pour ironiser par rapport à un système de certitude. Donc voilà deux exemples, je crois, de ce qu'est la grande ironie kundérienne.
Alors, cette grande ironie kundérienne se porte aussi sur une réalité ou un sentiment que nous chérissons tous, l'amour.
Son recueil
de nouvelles, Risibles amours. Mais justement, allez-y, et puis nous parlerons de l'ironie sur l'amour. Allez-y, Alakis Progidis.
Justement, pour ne pas sortir de... Parce qu'il faut toujours ajouter romanesque, c'est-à-dire si on isole les mots, aucun dictionnaire et aucune théorie ne peut nous éclairer. C'est-à-dire, il faut dire ironie romanesque. Elle naît avec le roman. Elle naît historiquement, n'existe pas avant. Ce n'est pas la satire, ce n'est pas l'humour. L'ironie romanesque, c'est un monde à part dans le traitement de l'existence. Et comme Guy vient de mentionner le livre du rire et de l'oubli, il faut ajouter que l'auteur ne se sépare pas du reste des gens qui participent à ces expériences. Lui-même, il dit comment c'était difficile de s'arracher au cercle magique constitué par ceux qui partagent la même foi. Il dit, je fais partie, c'était une expérience existentielle d'être exalté, d'être avec les autres pour applaudir les dirigeants du Parti communiste, etc. Oui. Donc, il n'était pas étranger, et c'est exactement parce qu'on n'est pas étranger aux expériences existentielles d'une époque qu'on peut devenir romancier.
Oui, on n'est pas étranger. Oui, donc, il y a une part, évidemment, d'auto-ironie dans l'ironie kundérienne, dans l'ironie romanesque.
Exactement. Dans l'auto-ironie, il n'y a pas d'ironie, oui. C'est la satire. La satire est facile à faire. C'est, évidemment, on prend des cibles, mais Kundera ne prend jamais des cibles.
Oui, et puis l'ironie non-romanesque peut être une sorte de métalangage. Et l'ironie romanesque, non, puisque le roman, dit Kundera, c'est la sagesse de l'incertitude. Dans l'art du roman, il cite ce proverbe yiddish, l'homme pense, Dieu rit. Et voilà, Dieu rit parce que l'homme n'arrive pas, les certitudes sont toujours contestables.
Absolument. Si je peux vraiment quelques secondes, pour aller tout à fait dans le même sens,
bien sûr.
Prenez un roman comme La vie est ailleurs, qui pourrait être un roman satirique, c'est-à-dire un roman qui se moque d'un poète lyrique qui, peu à peu, est amené à devenir un salaud, c'est-à-dire un délateur, un complice d'un régime totalitaire. Bon. Mais quand on lit ce roman, on se rend compte d'une part qu'il n'est jamais dit que c'est un mauvais poète, que d'autre part, il y a un lien entre la poésie et l'illusion lyrique. Il y a un lien entre l'illusion lyrique et la participation à un pouvoir totalitaire, mais il y a un troisième terme qui les relie, dans le cas du personnage de La vie est ailleurs, c'est l'immaturité sexuelle, c'est-à-dire le fait qu'il n'a jamais pu couper le cordon ombilical avec sa mère, et que ça crée, disons, une espèce d'embarras sexuel dans son rapport aux femmes. Alors, s'il s'agissait simplement de dénoncer l'alliance du poète et du bourreau, ça serait simple, ça serait une thèse et ça serait une satire. Mais il suffit d'introduire ce troisième terme, c'est-à-dire l'impuissance à couper le cordon ombilical, pour qu'on soit dans un domaine qui est celui d'une expérience concrète, d'un personnage singulier, et à la fin, il n'y a aucune thèse univoque à en tirer. Voilà.
Bien. Voilà en effet une bonne définition de l'ironie romanesque. J'en viens maintenant à l'amour. Et laissez-moi dire quelques mots, parce qu'en effet, c'est l'objet par excellence de son ironie de romancier. Risibles amours en témoignent, et puis aussi, dans l'insoutenable légèreté de l'être, la réflexion sur ce type humain particulier, l'homo sentimentalis, l'homme qui révère ses sentiments et son moi sensible. Et Kundera dit, à peu près, enfin, je résume, nous avons, nous autres Européens, redoublé l'amour par l'amour de l'amour, au risque de substituer celui-ci à celui-là. C'est notamment la lecture qu'il fait de la correspondance de Bettina von Arnim avec Goethe. Elle n'aime pas Goethe, elle aime son amour pour Goethe. Mais justement, et c'est là que je voudrais avoir votre opinion, il me semble que l'œuvre de Kundera n'est pas simplement une œuvre ironique, qu'il y a autre chose que cette ironie romanesque, parce que curieusement, l'auteur de Risibles Amours est le seul grand romancier que je connaisse de l'amour durable. L'amour entre Teresa et Thomas dans la soutenable cherté de l'être, il ne va pas sans difficulté, sans vicissitude, puisque Thomas est un libertin, reste que ils terminent leur vie ensemble dans une coopérative agricole, à l'écart de l'histoire, et il leur fait la grâce même de mourir en même temps dans un accident. Mais il y a plus. Il y a dans l'œuvre de Kundera une réflexion sur l'amour au-delà de la mort. Joseph, personnage de l'ignorance, c'est un émigré tchèque, il retourne en Tchéquie après la chute du mur, et il est veuf, et il ne peut pas rester en Tchéquie, il revient au Danemark, mu par une fidélité déraisonnable, envers sa femme enterrée là-bas. Et puis, dans le livre de Rive de l'oubli, il y a le personnage de Tamina, et dont le travail du deuil est exactement l'inverse du travail du deuil défini par Freud. C'est pour Freud, le travail du deuil, ça consiste en ceci: l'épreuve de réalité a montré que l'objet aimé n'existe plus et dicte l'exigence de retirer toute la libido des liens qui le retiennent à cet objet. L'exigence de Tamina est inverse. Elle veut se souvenir absolument de ce qu'était le lien avec son mari. Elle fait un travail de mémoire, si vous voulez, et encore de fidélité déraisonnable. Et je voudrais, pour finir, citer un passage qui m'émeut aux larmes des Testaments trahis. Il dit ceci: il est si facile de désobéir à un mort, si malgré cela, parfois, on se soumet à sa volonté, ce n'est pas par peur, par contrainte, c'est parce qu'on l'aime et qu'on refuse de le croire mort. Cela n'a pas grand-chose à faire avec une foi religieuse en la vie éternelle de l'âme. Tout simplement, un mort que j'aime ne sera jamais mort pour moi. Je ne peux même pas dire je l'ai aimé, non, je l'aime. Et si je refuse de parler de mon amour pour lui au temps passé, cela veut dire que celui qui est mort est. C'est là peut-être que se trouve la dimension religieuse de l'homme. Et je cite aussi ce passage parce que Kundera a aussi écrit des essais très importants pour nous, L'art du roman, Les Testaments trahis, Le rideau, une rencontre, et que ces essais, c'est l'alliance d'une extrême intelligence et d'une extrême émotivité. Et c'est l'ironie dont on crédite Kundera, ce point de vue satanique sur le monde, comme dit François Ricard, peut nous faire oublier la sensibilité à fleur de peau qu'il y a aussi dans son œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, l'un et l'autre, Lakis Progidis?
Écoutez, c'est peut-être le plus grand chapitre à aborder concernant Kundera. Et pour commencer, il y a quelque chose dont il s'était préoccupé beaucoup, c'est-à-dire c'était encore une réhabilitation. C'est la réflexion esthétique. Réflexion esthétique, ça signifie de voir dans le sensible une voie de connaissance. Prendre les sensations comme fond d'une connaissance qu'on ne peut pas avoir autrement. Et ça, c'est quelque chose dont on commence à oublier complètement dans le monde qui évolue sous la constellation de la science. Je parle du monde d'aujourd'hui, de notre monde. Donc, peut-être c'est un de ces points dont nous garderons la nostalgie, c'est-à-dire à partir du moment où nous voyons vers où va notre monde, Kundera peut-être c'est un des derniers qui a donné au sensible sa dimension cognitive. Et il faut avoir toujours en tête son idée principale qui tient tout son art et tous ses essais, c'est-à-dire nous vivons dans un monde de paradoxes terminaux. Et le couronnement de ces paradoxes, c'est-à-dire le renversement des valeurs à leur contraire, on commence à croire à la démocratie et nous vivons dans le contraire de la démocratie, c'est ça le sens des paradoxes terminaux dont on parle Kundera. Et le plus grand de ces paradoxes, c'est l'individu libre et autonome qui devient, devant nos yeux, rouage dans la machinerie communicationnelle. C'est-à-dire, c'est le contraire absolu de l'individu. Et c'est pour ironiser sur ce individu, sur sa perspective du rouage de la machinerie communicationnelle, qu'il fait la surenchère sur le lyrisme, l'amour et surtout l'amitié. C'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, Kundera, c'est un trésor inépuisable dans ces trois, disons, dimensions de l'être. C'est-à-dire, le côté lyrique, il est anti-lyrique contre le lyrisme du bazar, mais Agnès, dans l'immortalité, ce sont des pages d'un lyrisme ontologique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire cette volonté de s'arracher de son petit moi pour s'unir avec les pierres et les arbres, l'univers qui est un peu quand même plus calme que nous, les humains. Donc ça, c'est un lyrisme qu'on ne trouve dans aucun autre poète. Et l'amour, mais je ne peux pas aller répéter les paradigmes que vous venez de donner, mais l'amitié, qu'on n'a pas encore mentionné, et que c'est peut-être son testament, n'est-ce pas, d'artiste et de séiste, le dernier roman, La fête de l'insignifiance, que c'est un éloge de l'amitié. Donc voilà, toutes ces dimensions de l'être, ce sont des dimensions qui risquent de disparaître du monde actuel. Et c'est pour ça que je pense toujours que Kundera est le romancier le plus actuel, ne fût-ce que pour remettre dans l'ordre du jour les fondamentaux de l'humain.
Oui, alors s'il le fait et que nous le lisons, c'est quand même que nous restons malgré tout des individus. Quant à savoir si nous vivons encore dans des démocraties, ce serait en effet l'objet d'une autre émission. Mais
est-ce que je peux intervenir?
Oui, Guy Scarpetta, bien sûr.
Alors, moi je crois en effet que quand on regarde le répertoire des personnages de Kundera, il y a quelque chose qui les caractérise presque tous. C'est une tension entre un pôle romantique et un pôle libertin. Hein, c'est-à-dire ce que quelqu'un qui a superbement écrit sur Kundera, qui s'appelle Eva Legrand, appelait le Tristan d'un côté et Don Juan de l'autre. Bon. Mais il y a les deux. C'est-à-dire, et ça culmine à mon avis dans son chef-d'œuvre, qui est L'insoutenable légèreté de l'être. C'est-à-dire que les personnages oscillent dans cette tension entre le pôle romantique, le pôle de l'amour-passion, le pôle éventuellement de l'amour durable, en effet, et puis la liberté du jeu sexuel, plus ou moins coupé de l'affectivité, plus ou moins, et avec beaucoup de nuances. Mais il y a les deux. Et il y a de la tendresse chez Kundera, c'est absolument évident chez ces personnages. Mais vous citiez, Alain, l'ignorance. Bon. Pourquoi est-ce que le personnage de Joseph décide, alors qu'il avait pensé à un moment revenir en République tchèque, dont il était parti, pourquoi est-ce qu'il décide de revenir là où il s'était exilé, uniquement pour le souvenir d'un amour qui a disparu? C'est quelque chose d'assez étonnant. Bon. Joseph, il revient à Prague. Il se rend compte que Kafka, qui était autrefois totalement évacué par la culture officielle communiste, est devenu un produit d'appel touristique. Que il y avait autrefois des affiches où des mains se serraient pour célébrer l'amitié franco-soviétique, et qu'aujourd'hui on trouve le même logo, les mêmes mains qui se serrent pour célébrer la fraternité antiraciste, c'est-à-dire la nouvelle doxa. Et il se rend compte que il n'est pas chez lui, il n'est pas revenu chez lui. Il dit à un moment à un personnage: l'Empire soviétique s'est écroulé parce qu'il ne pouvait plus dompter les nations qui voulaient être souveraines, mais ces nations, elles sont maintenant moins souveraines que jamais. Elles ne peuvent choisir ni leur économie, ni leur politique étrangère, ni même les slogans de leur publicité. Et Joseph dit cela à un de ses amis, qui a été communiste, qui est resté à Prague, et qu'il vient de retrouver. Et il se rend compte qu'ils sont tous les deux anciens adversaires, devenu pareillement étranger au monde qui les entoure et qui a succédé au monde qu'ils avaient connu. Et c'est à partir de là, pour Joseph, qui ne retrouve à Prague que des règlements de compte à retardement, des ressentiments, une indifférence colossale à ce qu'il a vécu à l'étranger, c'est à ce moment-là que Joseph décide de revenir dans un lieu à qui il n'est pas attaché par un long passé, mais où il a le souvenir d'un amour qui a disparu. C'est là que ce sentiment de l'amour durable et durable au-delà de la mort est plus fort finalement que l'évolution historique elle-même. Et ça, je trouve ça très très fort, quoi. D'autant plus, bon, je sais que Kundera déteste qu'on parle de lui plutôt que de son œuvre. Il fait partie de ces écrivains comme Faulkner ou comme Flaubert avant lui.
Flaubert, oui, bien sûr.
Qui ont pour ambition de s'effacer derrière leur œuvre. Mais je crois que l'ignorance, c'est probablement, c'est une hypothèse que je lance, un des romans les plus autobiographiques de Milan. Voilà.
Oui, vous avez raison. Alors simplement, cette dimension amoureuse dans la décision de Joseph ne doit pas être négligée. Tout ce que vous dites sur sa déception devant Prague est tout à fait juste. Mais cette femme qui est morte, cette femme qu'il a rencontrée au Danemark, cela veut dire pour lui qu'elle est désormais absolument sans défense. Il dit ceci, on ne respecte plus ses souhaits ni ses goûts, la femme morte ne peut rien vouloir, aspirer à aucune estime, réfuter aucune calomnie. Jamais il n'avait ressenti pour elle une compassion aussi douloureuse que lorsqu'elle fut morte. Et la dimension de compassion dans l'amour est très présente chez Kundera, c'est le lien initial entre Thomas et Teresa. Donc, elle s'est remise entre ses mains, et après un pénible bras de fer avec sa belle famille, il a réussi à la faire enterrer dans un caveau à deux, une tombe pour deux, comme une calèche pour deux, et donc il rentre de Prague, mu précisément par cette invincible compassion, il prend l'avion pour le Danemark. Et j'ajouterais aussi, pour aller dans le même sens, une réflexion sur l'idylle. C'est-à-dire que Kundera, c'est d'abord la critique de l'idylle, et notamment de l'idylle communiste. Et vous en avez parlé, la kis progidis, la transformation du monde en un cercle unanime, sans dissidence et sans division. Et Kundera faisait partie du cercle. Mais il y a aussi une vision positive de l'idylle chez Kundera, que François-Marie Ricard a merveilleusement mise en lumière. Et Teresa et Thomas vivent quelque chose d'idyllique dans cette coopérative agricole, loin de tout, loin de l'histoire, et où ils sont aussi débarrassés de leur propre image. Et l'idylle, c'est effectivement, hors histoire, une sorte de bonheur de la répétition. Laissez-moi vous lire un tout petit extrait de l'insoutenable légèreté de l'être. Quand le président de la coopérative allait promener son méphisto, c'est-à-dire son cochon, il avait un cochon apprivoisé, et rencontrait Teresa, il n'oubliait jamais de dire « Madame Teresa, si seulement je l'avais plus connue plus tôt ». On aurait couru les filles ensemble, aucune femme ne résiste à deux cochons. À ces mots, le cochon poussait un grognement, il avait été dressé pour ça. Teresa riait, et pourtant elle savait une minute à l'avance ce qu'allait lui dire le président. La répétition n'enlevait rien de son charme à la plaisanterie, au contraire, dans le contexte de l'idylle, même l'humour obéit à la douceur de la répétition. Et ça c'est la grande surprise, si vous voulez. Ce critique de l'idylle et du kitsch, c'est aussi un nostalgique de l'idylle. Voilà quand même une des ambiguïtés merveilleuses de Kundera, la quis progidis.
Ce qui est la qualité suprême de Kundera, c'est d'écouter l'humain. C'est de ne pas faire la surenchère idéologique pré-interpréter l'humain. Non, il attend, il écoute. Et les gens, quand ils vivent un idylle, il faut le dire. Ça existe. Et c'est tout à fait l'expérience humaine, l'expérience de la vie. Et Kundera est un grand écrivain, un grand romancier populaire, parce qu'il attend les gens, il attend les gens parler. Il sympathise exactement avec les vécus qui sont quelque chose de concret, chaque fois. Donc, de ne pas se lever au-dessus de l'humain, c'est peut-être la qualité suprême du romancier.
Oui, mais ça, si je peux me permettre, ça...
Oui, Guy Scarpetta.
Ça rejoint quelque chose qui est très sensible et qu'on a déjà évoqué un peu, c'est que chez Kundera, l'expérience humaine est une expérience d'ambiguïté et de paradoxe et de contradiction. L'idylle est quelque chose de détestable si c'est la ronde unanime pour célébrer un bonheur frelaté, mais ça peut être quelque chose d'extraordinaire si c'est vécu dans une sorte de retrait de l'histoire. Bon, on a l'impression que tous les grands thèmes que M. Kundera compose comme un musicien et tous les motifs qui s'y raccrochent ont tous une tonalité en majeur et en mineur, quoi. C'est-à-dire que ils peuvent être positifs et ils peuvent être négatifs. L'amitié peut être extraordinaire, ça peut être un chantage. L'amour-passion peut être quelque chose de très exaltant et ça peut être une aliénation abominable en même temps. Et c'est ça le territoire de l'expérience humaine, c'est-à-dire un territoire qui échappe aux simplifications idéologiques et surtout aux simplifications morales. Je connais peu d'écrivains qui soient aussi peu moralistes que Milan Kundera.
Oui, absolument. Alors l'amour, ça peut être...
Vous permettez que j'ajoute...
Oui, la kiss, pour qu'ils disent.
À partir du moment où on voit que le romancier participe à l'expérience de ces personnages, on est obligé, comme lecteur, de participer aussi. C'est-à-dire, quand je parle de la participation de Kundera dans l'enthousiasme ou la ronde, comme vient de dire Guy, de révolutionnaires, la ronde révolutionnaire, mais je n'en faisais pas partie, nous faisions partie, nous étions tous là. C'est-à-dire, nous disons notre propre vie. Et je ne crache pas sur ma vie. C'est ma vie, et c'est très bien, c'était très bien. Et je le sens toujours que c'est un enthousiasme qui m'aimait, c'est avec émotion que je me souviens de ces moments-là. Mais en même temps, je sais les limites, je connais les limites. Tout à l'heure, il y avait un échange dialogique sur l'époque que vous avez vécu. Moi, j'étais en Grèce à l'époque, mais dans les années 70, il y avait... dans cette exaspération avant-gardiste et des signes d'un certain renouveau. Et pour moi, c'était mes adversaires, ces avant-gardistes, c'était des adversaires. Mais aujourd'hui, ce sont mes alliés, mes amis, parce que je suis dans un train face à un beau scoutisme moralisateur et identitaire qui fait que je me sens très bien avec eux. Maintenant, je commence à le relire avec bonheur. Donc, vous voyez, ce sont des expériences de vie et qu'il faut être un peu... s'abandonner un peu dans l'interprétation du monde. Vivre la vie, c'est pas exactement comprendre et interpréter la vie.
Non, c'est vrai. Mais j'ajouterais que... L'amour peut être une aliénation abominable, ça peut être aussi une aliénation délicieuse. On s'en rend compte que l'autonomie n'est pas le dernier mot, ni forcément la valeur suprême. Mais vous avez parlé du boy-scoutisme moralisateur, là, qui se progédisse. Alors j'en viens à la dernière partie de notre conversation. Très souvent, l'histoire, l'événement, l'actualité me ramène malgré moi à Kundera. Tout d'un coup, je me dis, oui, voilà, c'est un moment kundérien où Kundera éclaire le monde où nous vivons, l'événement qui se produit. Est-ce que vous faites la même expérience et par exemple, à quel propos, Kiss-Carpeta ?
Oh ben, en permanence, parce que surtout après la période qu'on vient de traverser, quoi. On avait l'impression que l'expérience humaine était réduite à deux choses, la survie biologique de l'espèce d'une part, et la nécessité de la rentabilité économique et du travail de l'autre. Bon, la vie humaine ne se réduit pas à ça, et on pouvait voir dans les réactions des choses que Kundera permet d'éclairer. Il y a eu du kitsch, il y a eu énormément de kitsch dans cette période. Il y a eu des gens qui se disent écrivains et qui ont passé leur temps, y compris en envoyant une lettre à France Inter tous les jours, qui se sont acharnés à repeindre avec des couleurs radieuses les barreaux de leur prison. Il y a eu un kitsch. Bon, dans une conversation précédente, Alain, vous parliez de cette espèce d'appel grandiloquent et un peu niais de Nicolas Hulot. Il est évident qu'on a là un exemple de kitsch tout à fait extraordinaire et de kitsch moderne, c'est-à-dire de kitsch, oui, qui vient de quelqu'un qui est un salarié du spectacle, un homme de l'imagologie, pas du tout un homme politique. Oui. Bon. Et c'est constamment dans ce qu'on vient de traverser que je me dis, mais Kundera, il nous a offert non seulement une grande œuvre d'art, mais aussi un regard.
Oui, il nous a fait un regard.
D'avoir un regard à la fois ironique, distancié, mais en même temps pas étranger à ce qu'il regarde, et de repérer chez les gens tout ce monde de paradoxes, de contradictions, d'ambiguïtés, qui est le ressort même de l'expérience humaine.
Oui, absolument. Donc je crois que ce kit vient aussi de cette cassure qu'on a voulu instaurer entre le monde d'avant et le monde d'après. Parce que le monde d'après devrait être en quelque sorte un monde purgé du mal. Et c'est là qu'on retrouve justement le texte de Nicolas Hulot et sa litanie, cette anaphore. Le temps est venu de créer des liens, le temps est venu d'applaudir la vie, le temps est venu de la bienveillance, le temps est venu de l'empathie, le temps est venu d'applaudir la vie. N'est-ce pas la définition même du kitsch, la quis progidis? Et malheureusement, vous avez très peu de temps pour répondre à cette question, mais si vous pouvez le faire.
Non, c'est mon article dans ce numéro qui est consacré à Kundera, porte comme titre le désaccord catégorique avec l'être pour définir Kundera. Et je crois que Kundera n'est jamais autant actuel qu'aujourd'hui. Son époque peut encore être vue par ses côtés positifs, par ses côtés discutables. Il y a beaucoup de choses, l'histoire est beaucoup plus riche que ce qu'elle paraît. Mais aujourd'hui, c'est d'une monotonie insupportable. Et Kundera, c'est presque la lecture qui s'impose par l'évolution du monde. Quand il faut reprendre contact avec le monde, c'est lire Kundera.
Très belle conclusion. Merci Lakis Progedis, merci Guy Scarpetta. Je rappelle donc le dernier numéro de l'Atelier du Roman, numéro 100, Milan Kundera, le printemps du roman. Je signale aussi la parution en mars 2020 d'un dossier très intéressant sur Kundera dans la revue Des Demandes. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Spécisme et antispécisme ». Mes invités seront Valérie Giroux et Ariane Nicolas. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard, Gilles Blanchard, Olivia Branger, Anthony Thomasson. Merci à Jean-Marc Clauss pour la coordination. Dans quelques instants, concordance des temps avec Jean-Noël Jeannonet.